précis d'une fourche antédiluvienne réservée par eux à cet usage exclusif de la stimulation des feux de papier, de vieux foin et autres détritus dont ils étaient friands, ne manquant jamais, deux fois par mois, le dimanche après-midi, après la sieste et avant la traite, à ces rendez-vous pyromaniaques abrités du vent folâtre de Fridière par le mur nord de la grange et le dos arrondi de l'ancien four à pain. Éric avait deviné, plus qu'il ne le savait, que sa mère et Paul s'étaient connus par une annonce passée dans un journal, et pas sur Internet, dont il ne disposait ni l'un ni l'autre. Chez son père à Dunkerque, à 7 ou 8 ans, il avait eu tout loisir de découvrir ces horizons insoupçonnés de sa mère sous la férule volubile de Christiane, la fiancée ou l'amoureuse ou l'amie, la compagne, la concubine, la copine de son père. Il connaissait tous les mots, s'étant avisé que l'enfant était habile dans le maniement du clavier, ladite Christiane avait résolu, sous prétexte que ça lui serait utile à l'école où l'informatique était l'avenir, de l'embarquer dans de folles chevauchées sur la toile, tour à tour salace, tour romanesque, mièvre tout épicé, tour lesté d'un lexique riche et contrasté, averti de pratiques audacieuses et d'usages déconcertants. Éric s'était tu, cachant cette initiation précoce à sa mère ou à sa grand-mère, mais il n'avait rien oublié des loisirs ainsi partagés avec cette Christiane fantasque, enveloppante, large de corps et d'esprit, dont l'âcre odeur de suerance était encore pour lui d'associer à l'écran et au clavier. Les annonces de Fridière, publiées sur papier jaune dans le Chasseur français, étaient sages, à la limite d'une sorte de paresse dans la traque qui eût déclenché les foudres railleuses de la grosse Christiane. Les hommes recherchaient une femme mince ou svelte, et non fumeuse, il voulait une personne douce, tendre, sérieuse et sans attache, ce qui signifiait sans enfant, libre, c'est-à-dire, Éric le comprenait, pas comme sa mère. Les annonces des femmes parlaient de bon niveau, d'aisance, de sécurité, on y rêvait de cadres supérieurs et de retraités de la fonction publique. Éric savait par cœur certaines annonces choisies, célibataire, 44 ans, 1m67-69 kg, sans enfant, chauffeur agriculteur, cherche jeune femme aimant campagne, voulant fonder un foyer heureux, désirant enfants, ou encore, cherche compagne, 50-62 ans, féminine, bien bustée, sans attache, pour ville alternée, Paris-campagne, féminine et bien bustée, seraient donc presque synonymes. Mais le Robert inventé en 6e et Doréchef en 5e par Madame Martin résistait à Busté, qui ne se concevait pas beau masculin et s'entendait assez sans recourir à une définition canonique. Éric, toutefois, tenait à la précision du dictionnaire et à ses certitudes alignées en caractères minuscules et colonnes impeccables. À poitrine, il avait lu « Poitrine des femmes, Saint Borge, gymnastique pour la beauté du buste ». Sa mère était bien bustée, sans gymnastique pour le buste et sans gymnastique du tout. Elle ne s'intéressait pas au sport, n'en avait jamais pratiqué aucun et regardait seulement le patinage artistique à la télévision. Éric se demandait comment, dans une autre vie, son père et sa mère avaient pu être ensemble et comment elle pouvait venir d'eux, de là, de ces deux rassemblés. Il ne savait pas au juste quel mot mettre sur ces choses du corps et du sentiment dès lors qu'il s'agissait de ses parents. Il aurait peut-être posé des questions à sa grand-mère si elle avait été avec lui à Fridière, mais au téléphone, c'était impossible. Et quand sa grand-mère venait les voir, ils n'étaient jamais seuls ensemble assez longtemps pour pouvoir parler vraiment comme ils le faisaient jadis après le goûter chez elle, assis sur les tabourets, ronds à la table minuscule de la cuisine, prévue pour une personne. À l'extrême rigueur pour deux, sa grand-mère écoutait les questions, il fallait attendre, parfois elle répondait longtemps après, il mangeait les tartines qu'elle préparait au fur et à mesure, 3 tartines de plus, avec du beurre et du chocolat en poudre, juste la bonne quantité de chocolat, elle appuyait avec le couteau à bourron pour que le beurre mou se mélange avec la poudre et que l'on puisse respirer en mangeant la tartine, au lieu de se retenir par crainte d'éternuer à cause du picotement provoqué par le chocolat. Ils appelaient ça les tartines difficiles. À sa grand-mère, Éric racontait parfois comment c'était à Dunkerque avec la grosse Christiane, les jumeaux qu'elle avait eus avec un autre homme avant de rencontrer son père, et le berger allemand, Sultan. Il disait des morceaux, en bloc, et se taisait si sa grand-mère l'interrompait. Le berger allemand ne le reconnaissait pas et aboyait quand il entrait dans la chambre qui était aussi celle des jumeaux. Son père lui expliquait qu'il avait programmé le chien pour ça, pour qu'il protège les jumeaux. Leurs affaires et leur territoire, Éric ne faisait pas partie de la maisonnée. Le chien n'avait pas l'odeur d'Éric dans sa mémoire de bête dressée. Son père parlait du berger allemand pendant des heures, répandu dans le canapé, plus ou moins émêlé avec la brosse Christiane, qui n'éteignait jamais la télévision, et disait que la bière n'était pas vraiment de l'alcool. Son père y est, on voyait ses dents gâtées, c'est rien la bière en degrés comme du sirop. Tu pourras le dire à tes copains d'école que ton père c'est le champion de la bière au maître. À Fridière, Éric se souvenait parfois de son père lourd et mou posé devant la télévision, ou du père de la grosse Christiane qui venait le dimanche en vélomoteur. Il appelait les jumeaux les cafés au lait et répétait que, heureusement, la cri-cri avait mis beaucoup de lait dans le mélange. Mais quand même, il insistait, ça se voyait, ça se verrait, et de plus en plus, de pire en pire, et ils étaient crépus, les gars, ils en...